Amen, Jésus. Alléluia. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'Écriture sainte, dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, où nous lirons ensemble à partir du verset 20. Jean, chapitre 12 et au verset 20. Voilà ce qui est écrit là. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. » Nous relisons ce dernier verset, verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. » Vous savez combien de personnes, de croyants même, sont de la religion de ces Grecs qui sont mentionnés dans ce chapitre. Ils voulaient voir Jésus, mais ils ne voulaient pas vraiment le servir. Ils étaient poussés par la curiosité, ils voulaient connaître quelque chose de la question, ils voulaient examiner les proclamations de Christ pour, comme étant le Messie. Ils considéraient les vérités particulières par lesquelles Jésus veut illuminer le monde, mais ils ne voulaient pas aller plus loin. Donc, ce n'est pas des gens qui sont indifférents à l'Évangile, mais il lui montre un petit peu le même intérêt, vous savez, que le naturaliste lorsqu'il découvre un insecte inconnu ou que le géologue qui étudie une section de l'écorce terrestre. Et certains de ces Grecs sont allés quand même un petit peu plus loin. Ils ont eu de l'admiration pour les caractères et l'enseignement de Christ et ils ont exprimé honnêtement, je dirais, cette admiration. Mais voyez combien leur admiration est creuse malgré tout. Ils applaudissent la personne à laquelle ils négligent d'obéir. Donc, ils admirent ses enseignements, mais ils ne veulent pas les pratiquer. Ils écoutent la parole divine, mais ils n'accomplissent pas la parole, voyez-vous. Et il en est aussi parmi les croyants encore aujourd'hui, pour lesquels l'Écriture sainte, voilà, c'est effectivement un sujet d'intérêt respectueux. Ils n'ont jamais blasphémé le nom de Christ, ils n'ont pas douté de l'inspiration divine de la Bible. Non, ils ont examiné même la parole de Dieu. Certains ont pu prendre des résolutions avec, je dirais, un semblant d'engagement par le baptême, par une régularité, dans les moyens de grâce qu'il peut y avoir, les réunions, la prière, etc. Mais malgré tout, combien ils sont loin de la véritable vie de disciples. Pourquoi ? Parce que leur cœur n'obéissent pas réellement aux ordres de l'Évangile. La croix de Christ, c'est pour eux un poids qui est trop lourd à porter. Et ils ne sont pas décidés à porter le joug du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous rappeler, frères et sœurs, vous dire et vous rappeler qu'une telle religion ne peut jamais sauver notre âme. Donc, quand même, ce n'est pas à nous de juger, mais c'est à nous de croire. Ce n'est pas à nous simplement d'admirer, mais c'est à nous d'obéir. Ce n'est pas à nous de féliciter, d'applaudir, mais c'est à nous de courber doucement notre nuque pour imiter et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et avec le secours de l'Esprit de Dieu, nous voulons considérer maintenant trois grands chapitres, trois grands points, le triple enseignement qui est contenu dans notre passage. Déjà, vous avez un premier point, ce sont des indications claires pour un service honorable quand Jésus dit, dans le début de notre verset, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Ça, ce sera notre premier chapitre. Ensuite, vous en avez un deuxième, de généreuses paroles qui viennent d'un bon maître, quand il dit « Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. » Et puis, vous avez en troisième une très glorieuse récompense pour un service bien imparfait. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Amen. Voilà, et donc nous puissions voir ces trois choses successivement. Nous avons ici donc en premier des directions très claires pour un service très honorable. Donc si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et je voudrais là maintenant, formuler à voix haute le sentiment de, je pense, la majorité de ceux qui sont présents. Je pense que tous, si nous imaginons que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste au milieu de nous, qu'il soit au milieu de nous en chair et en os, je pense qu'en tout cas la plupart d'entre nous, nous serions prêts, nous voudrions vraiment faire toute chose pour lui. Hein, si on pourrait traduire notre texte un petit peu différemment et ce serait tout aussi juste. On pourrait dire, si quelqu'un agit comme un diacre à mon égard, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon diacre. Si quelqu'un agit comme un diacre envers moi, mon Père l'honorera. Parce que le mot diacre, diakonos, dans le grec original, ça ne signifie pas autre chose que serviteur. Et tout serviteur, tout diacre, devait être le serviteur joyeux, laborieux, fidèle du Seigneur et de l'Église. Quelle était donc la part du diacre dans l'Église primitive ? Eh bien, c'était de servir les membres du peuple de Dieu et de toutes sortes de façons et toutes sortes de membres du peuple de Dieu dans tous les domaines. Et qui de nous rougirait d'être les serviteurs, d'être les diacres de Christ ? Hein, c'est-à-dire que ne serions-nous pas prêts, par exemple, s'il était là, à jeter nos vêtements sur le chemin pour qu'il n'ait pas à marcher dans une flaque de boue, hein, comme ils l'ont fait, rappelez-vous, au jour des rameaux. Ne serions-nous pas prêts à le nourrir, hein, aussi et s'il venait dans notre maison, bien certainement, nous serions prêts à faire un festin pour lui, n'est-il pas vrai, hein? Certainement, ne serions-nous pas prêts à supporter nous-mêmes la faim si c'était pour pourvoir à ses besoins? Et je pense que si ses 12 disciples étaient avec lui, eh bien certainement on n'en laisserait aucun dehors, mais on les accueillerait tous dans notre maison, et même en période de Covid, hein, certainement on ferait cela. Et nous serions même prêts, s'il le fallait, à quitter notre maison, à les loger ailleurs, peut-être plus inconfortablement, pour qu'ils puissent avoir du repos, parce que nous ressentons que si le Dieu béni était là ainsi, bien ce serait un si grand honneur de contribuer d'une façon quelconque à son bien-être, que rien ne serait trop dur et que rien ne serait impossible à réaliser. Et je crois que, en disant ça, malgré tout, il faut quand même se rappeler que pour la plupart, même d'entre nous, tout ça, ce n'est que du sentiment. Tout ça, ce n'est que du sentiment qu'en fait, bien souvent, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Hein, et que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, pour beaucoup de personnes, si le Christ se présentait avec le même déguisement, dirais-je, que celui sous lequel il est venu la première fois, mais je pense qu'il ne le recevrait pas, mais plutôt à l'inverse, qu'il risquerait de lui claquer la porte au nez, et peut-être même pire encore, et toutes ces belles paroles de générosité, d'hommage offert à Jésus, ne sont pour une grande part, chez beaucoup, que du sentiment, et ça se dégonflerait comme de la baudruche, si l'occasion de le mettre en pratique se présentait, parce que considérons bien que si nous voulons vraiment faire ces choses, nous pouvons les faire aujourd'hui. Nous pouvons les faire aujourd'hui, hein, s'il est vrai que nous voulons être des diacres, des serviteurs pour le Seigneur, eh bien il est en notre pouvoir d'accomplir toutes ces choses tant que nous sommes sur cette terre. Voilà, donc alors voilà quelqu'un qui va dire « Ah, je voudrais bien faire quelque chose pour prouver que je veux réellement obéir au Seigneur. Hein, donc, je professe être son serviteur, sa servante. Je voudrais lui montrer que je ne suis pas en parole seulement, mais que je ferai ce que mon maître me demande d'accomplir. » Eh bien, frères et sœurs, l'occasion est devant nous aujourd'hui, hein, aujourd'hui même. Hein. Alors, imitons notre maître et ainsi prouvons notre obéissance. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, eh bien, c'est pas compliqué. Voyez ce qu'il a fait lui-même. Voyez ce qu'il a fait lui-même et agissez sans plus tarder à son exemple. Sa propre vie est votre loi, écrite en lettres vivantes, donc, et c'est, je dirais, la meilleure preuve que vous montrerez que vous n'êtes pas des serviteurs en parole seulement, mais un vrai disciple. Il y a un autre qui va dire, eh bien, je l'assisterai volontiers dans tous ses besoins. Ah, oh, ben, je ne laisserai pas manquer de pain, hein, tant que je lui fournirai le verre d'eau fraîche. Je ne laisserai pas dire à nouveau, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas de quoi, de lieu où reposer sa tête. Ah, oh, ben oui, je m'occuperai de lui. Alors, imitez-le donc, et vous pouvez le faire. Hein, parce que n'a-t-il pas donné tout ce qu'il possédait pour ceux qui étaient dans le besoin? Ne s'est-il pas occupé du corps et des âmes des hommes? Rappelons-nous, n'est-il pas écrit de lui qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant toute maladie et toute infirmité? Alors, imitons-le dans la générosité de sa vie et occupons-nous des besoins, et parce qu'ainsi nous le servirons. Rappelez-vous qu'il a dit que si nous faisons du bien à l'un de ses plus petits, c'est à lui-même que nous l'aurons fait. Amen. Amen. Mais un autre dira, eh bien, je voudrais faire quelque chose pour le réjouir. Ah, s'il était encore là, c'est vrai, je pense que j'essayerais d'adoucir quelques-unes des rides de son front bien-aimé. Je travaillerai pour que le cœur de l'homme de douleur soit réjoui, au moins dans une certaine mesure. Oui, c'est vrai. Et là encore, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et si vous voulez ainsi réjouir son cœur, eh bien, que faire? Le mieux, c'est de le servir. C'est vrai, c'est de le servir, parce que le réconfort de ses tourments, c'est l'obéissance de ses enfants à son commandement. Et si vous êtes comme Christ, si vous avez à cœur de rendre Christ heureux, eh bien voilà, en l'obéissant, eh bien c'est quelque chose qui aura plus de valeur que tous les chants des anges, en tout cas pour cette terre, pour ce qui concerne cette terre. Si les hommes peuvent dire de vous, cet homme ou cette femme a été avec Jésus et a appris de lui, alors vous avez donné à Christ une meilleure musique pour cette terre que celle des chérubins et que les séraphins peuvent produire. Amen. Et puis encore, j'entends quelqu'un d'autre qui va dire, eh bien, je voudrais l'honorer. Ah ben, s'il était là, je pourrais faire, oui, comme ils ont fait. C'est-à-dire, je prendrais des branches aux arbres, et puis voilà, et puis je les jetterais devant lui, et comme je courrais devant lui en m'écriant, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ah oui, c'est vrai, tu peux le faire aussi, maintenant. C'est vrai, tu peux l'honorer de cette manière, tu peux le louer, tu peux l'adorer. Alors, oui, et puis alors aussi, suis-le, agis comme il a agi, vis comme il a vécu. Quand Jésus-Christ est-il le plus honoré? Quand les saints sont fidèles à sa parole, c'est là. Hein? Quand il témoigne à la fois en parole et en action. Quand son nom est-il le plus estimé? Lorsque les enfants de Dieu marchent avec soin dans ses traces. Amen. Hein? Je me rappelais encore ce témoignage que j'ai entendu il y a quelques années, mais qui n'a pas perdu de sa fraîcheur. Ça s'est passé aux États-Unis. Et puis là, c'était sur les terrains de football américain. Vous savez, les terrains de football américain, ce n'est pas des endroits pour les enfants de cœur. Hein? C'est des endroits où il se passe des choses fortes et des choses violentes. Hein? Donc, et voilà, je vous donne ce témoignage. Il a 24 ans, il est la nouvelle star de la Ligue professionnelle de football américain, la NFL. Bon, je vous dis, c'était quelques années déjà ce témoignage. Mais malgré cela, Tim Tebow des Denver Broncos se démarque de ses coéquipiers. Ce fils de missionnaire est croyant et optimiste. Et cela dans un secteur où les protagonistes font généralement parler d'eux en raison de leur implication dans les affaires de drogue, de mauvais comportements. Tim Tebow est devenu le phénomène du sport américain. La star du football américain est raillée et admirée. Quand les joueurs de la Ligue professionnelle de football américain NFL réalisent un touchdown ou quand ils gagnent un match, ils se mettent habituellement à tambouriner sur leurs pectoraux, montrent leurs biceps impressionnants ou affichent des poses martiales. Quand par contre Tim Tebow réussit une passe récompensée d'un point supplémentaire, il se met en plein milieu du stade à genoux pour remercier son créateur. Tebow fait figure à part parmi ces rudes gaillards de la NFL. Pas question de grosses lunettes noires, ni de grosses chaînes en or, ni de rhétorique vindicative pour provoquer l'adversaire. À la place de tout cela, ce croyant, poli, bien élevé, toujours de bonne humeur et surtout modeste. Le quarterback des Denver Broncos s'est hissé ce dernier hiver au statut de superstar du sport. Oui, Tebow fut la sensation en 2011 de la NFL. Les Broncos ayant perdu 4 des 5 premiers matchs, l'entraîneur décida de renvoyer le premier quarterback Kyle Orton sur le banc et de sélectionner Tebow. Un acte de désespoir. Tebow passant pour complètement inexpérimenté, mais il allait faire mentir tous les sceptiques. Avec lui, les Broncos devinrent l'équipe la plus redoutable de la saison et remportèrent 7 matchs consécutifs. Les émules de Tebow du monde entier se font photographier dans cette légendaire pose de prière de Tebow et mettent les images en ligne sur le site tebow.com. Un nouveau verbe est donc déjà né, Tebowing, pour exprimer cette manière caractéristique de se mettre à genoux. Tebow vit sa foi de manière tellement convaincante qu'il force le respect même des athées les plus endurcis. Voilà. Alors ça, c'est un témoignage d'une situation évidemment particulière. Hein, tout le monde n'est pas dans ce genre de contexte. Mais en tout cas, il y a possibilité, et je crois qu'on a pu en le démontrer aussi, il y a possibilité d'être des diacres de Christ en imitant son caractère. Maintenant, j'ai cité le mot diacre parce que c'est pour moi l'occasion de vous donner une illustration qui s'est passée dans l'histoire, celle-là, moins connue que ce que je viens de décrire là, mais malgré tout plus importante encore. Hein. Et ça s'est passé donc au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'était la demande de secours des églises nestoriennes qui étaient persécutées donc en Orient. Hein. Et là, vous savez, le vénérable Mar Yohanan, qui était un presbytre de l'église nestorienne à Oromia, et avec lui un diacre dont le nom était Mar Isaac. Donc, et ces deux hommes ont accompli un voyage pour cette époque presque incroyable, un voyage dans ces endroits reculés, ces endroits périlleux. Ils ont marché à pied sur pratiquement toute la distance, depuis les frontières les plus éloignées de la Perse jusqu'en Angleterre, jusqu'en Grande-Bretagne. Donc, par-dessus les montagnes de l'Arménie, de la Circassie, au travers des steppes de la Russie, puis de la Russie, ils ont passé en Prusse, l'Allemagne, la Hollande, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivent à Londres. Et ce qui était particulièrement frappant, c'était la façon dont le diacre prenait grand soin en toute chose du vénérable presbytre dont il était l'accompagnateur. Probablement le jour où Yohanan, le presbytre, a pensé à ce voyage, il s'est adressé à Isaac de cette fois-ci. « Isaac, es-tu un serviteur fidèle ?» Alors lui, il a répondu « Oui, depuis que l'Église m'a établi diacre, je t'ai aimé comme mon âme et je suis prêt à tout faire pour te soutenir. Alors, a dit le presbytre, si tu veux me servir, suis-moi. » Alors, mes réponses, mais dois-je laisser mes enfants, mon foyer ? En vérité, dit le presbytre, il faut qu'il en soit ainsi, car moi aussi je laisse ma femme et mes enfants pour accomplir ce long et pénible voyage des milliers de kilomètres jusqu'en Grande-Bretagne, où il y en a beaucoup qui aiment le Seigneur et qui pourront aider les saints persécutés dans cette région. Et donc, c'est maintenant que vient le moment de la mise à l'épreuve, et Isaac, s'il veut servir le presbytre, doit le suivre. Voilà. Hein. Et il ne refuse pas ce service. Quand il a accepté l'office de diacre, il a résolu d'être le serviteur de l'Église et de son ministère, et de l'être vraiment, et il est prêt maintenant à entreprendre ce voyage avec son presbytre. Et je m'imagine le voir partir. Il voyage au milieu des Kurdes déjà, donc à l'époque c'était un peuple sauvage qui était toujours assoiffé du sang des chrétiens, qui avait une haine profonde dans leur cœur à cause de l'islam. Hein, et peut-être qu'Isaac est dans la crainte et il voudrait revenir en arrière. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive !» dit le courageux presbytre en tapant de son bâton sur le sol et en avançant sans crainte vers l'ennemi. Et il passe ce danger, voici qu'ils en rencontrent un autre. Un immense massif montagneux leur barre le chemin, qui élève ses crêtes neigeuses, apparemment jusqu'aux cieux, et le prédicateur à la barbe grise va devant, et il s'écrie « Isaac, si tu veux me servir, suis-moi !» Et ils avancent, grimpant de crevasse en crevasse, le long de chemins déserts, tellement rares, qui ont tellement rarement connu le pas de l'homme, tant ils sont périlleux. Et bientôt, ils traversent ces moments, ils arrivent dans la vallée, et ensuite, au travers du désert, gelé, enneigé, ils avancent, le presbytre devant, continuellement, « Frère, si tu veux me servir, suis-moi, car c'est maintenant qu'il va être prouvé que tu es un vrai serviteur de l'Église et que tu es prêt à suivre le presbytre jusqu'au bout du monde. » Et il l'a suivi fidèlement, et ils ont atteint ensemble le but de leur voyage. Voilà. Hein. Maintenant donc, c'est justement ça que le Seigneur Jésus nous dit. Nous sommes ses diacres, ou ses diaconesses, et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes engagés, un jour, le jour où nous sommes donnés à lui, à porter notre croix et à le suivre. Et voilà, qu'il nous montre du doigt quelques montagnes élevées, quelques difficultés importantes. Et il dit, si tu veux me servir, suis-moi. Voilà ce qu'il nous dit. Il ne demande pas de conduire. C'est lui-même qui va devant, hein, et c'est le meilleur service qui puisse lui être rendu, c'est de le suivre humblement là où il nous mène. Amen. Hein. À considérer le chemin de Christ, et ensuite, si vous voulez servir, suivez-le. Vous savez, je sais que notre nature orgueilleuse veut servir Christ en trouvant de nouveaux chemins. Ah oui, c'est vrai, hein. L'homme orgueilleux a le désir de prêcher une nouvelle doctrine, ou d'établir une nouvelle église, ou de faire les choses à sa façon. Et nous voulons être des penseurs originaux, nous voulons juger, nous voulons considérer, nous voulons faire toutes choses sauf obéir. Ça, c'est notre nature, c'est comme ça. Hein. Donc, et ça, ce n'est pas un service pour Christ. Celui qui veut servir Christ doit le suivre. Il doit se contenter de marcher uniquement dans les anciennes traces et d'aller uniquement là où Jésus nous conduit. Amen. Ce n'est pas à vous ni à moi d'être des originaux. Hein. Nous devons être d'humbles copies de Jésus-Christ et c'est notre part de mettre nos pensées, nos opinions, nos jugements au pied de Christ et de faire ce qu'il nous commande simplement parce qu'il nous en donne l'ordre. Alors vous allez me dire, mais moi je suis incapable, mais moi je ne peux pas, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour suivre Christ? Vous savez, quand je regarde dans l'Écriture, j'aperçois que certains des plus grands héros de la Bible se considéraient comme totalement inadéquats et totalement incapables d'accomplir les plans de Dieu. Rappelez-vous Moïse qui a affirmé qu'il bégayait, qu'il était un trop faible orateur. Rappelez-vous de Gédéon qui a déclaré qu'il n'appartenait pas à la bonne classe sociale, il n'avait pas d'influence ni de force. Jérémie qui a dit qu'il se trouvait aussi faible et désemparé qu'un jeune enfant. Rappelez-vous Paul qui se décrit comme le pire des pécheurs et le plus insignifiant des apôtres. Et tout le monde, sans exception, y compris le prophète Samuel, pensait que David n'avait pas la stature pour devenir roi d'Israël. Mais Dieu juge les choses autrement. Et quand Dieu nous qualifie, quand Dieu nous donne, nous appelle, eh bien, il va aussi nous donner les forces pour faire les choses. Amen. Et ça aussi, c'est important. Écoutez l'histoire de ce représentant, de ce commercial qui venait d'être engagé pour prospecter diverses régions du pays et qui envoya quelques jours plus tard son premier rapport de vente au siège de son entreprise. Et sa lecture a frappé d'effroi le responsable du bureau commercial. Voilà ce qu'il a lu. J'ai découvert cette boutique en ville qui jamais a acheté rien chez nous, mais j'ai vendu beaucoup de nos produits. Aujourd'hui, je m'en vais à la ville voisine. Voilà. Ça, c'est le rapport. Alors, le directeur commercial il s'est dit, mais je vais le congédier, celui-là, hein, avec une écriture pareille. Mais avant qu'il ait pu le faire, voilà un deuxième rapport qui arrive sur son bureau. J'ai arrivé dans cette ville et je viens de vendre là 1 million de nos produits. Voilà. Alors, effrayé par l'idée de garder un représentant à la grammaire aussi approximative, hein, douteuse, hein, mais effrayé aussi de le congédier, parce que ça a l'air de si bien marcher, si bien réussir, le directeur commercial donc s'est adressé au directeur général de la compagnie. Voilà. Et le lendemain matin, voilà un mémo qui arrive de la part du directeur, qui, voilà, donc juste à côté des deux rapports des représentants de commerce, et on peut lire la chose suivante. Nous avons passé trop de temps à faire de la grammaire, alors plein, et puis la phrase était pleine de fautes d'orthographe, exprès, hein, et pas assez à vendre nos produits. Jetez, accent aigu, un coup d'œil sur ces ventes. Je veux que tout le monde lit ces rapports de gauche qui est sur les routes en train de faire un beau travail. Je veux que tout le monde parte faire de même. Voilà, un peu d'orthographe. Donc, simplement pour dire que les titres et les diplômes, c'est bien, hein, je ne veux pas dire que c'est mal, mais l'important, le plus principal, ce n'est pas ça. Le principal, c'est que c'est Dieu qui veut nous rendre capables. Mais il faut que nous ayons aussi un esprit d'initiative et que nous comptions sur le Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, va nous rendre capables pour les tâches qu'il veut nous confier. Nous pouvons suivre le Seigneur. Nous pouvons suivre le Seigneur. Nous sommes qualifiés pour le faire. Le Seigneur nous qualifie pour le faire. Certains se disent, mais moi maintenant, je suis trop vieux, je suis trop âgé. Hein, donc, pour le faire, par exemple, rappelez-vous, quand Dieu a promis à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un enfant, Abraham a ri par incrédulité, il a répondu, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? C'est en Genèse 17, verset 17. Et plus tard, Sarah a ri pour la même raison, ça le dit dans le chapitre suivant, chapitre 18, verset 12. « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ah oui, bah oui, c'est vrai, on vieillit tous, hein. On vieillit tous, et puis on se demande si le Seigneur va encore pouvoir nous utiliser, si on a peut-être moins d'influence, je ne sais pas, moins de position, peut-être que notre esprit n'est plus tout à fait aussi vif qu'il l'était, j'en sais rien, notre mobilité est peut-être plus limitée par des problèmes physiques, et chaque jour, eh bien, on lutte pour garder les choses qu'on a eues, et puis oui, on peut se poser la question, est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un qui aurait tendance à être diminué? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose si on est laissé à soi-même. Oui, c'est vrai, pas grand-chose. Mais Dieu peut faire plus avec nous que ce que nous pouvons l'imaginer. Alléluia, c'est vrai. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et la parole qui a été adressée à Sarah dans Genèse 18 et au verset 14, bien sûr que non. Nous ne serons jamais trop vieux pour être utiles si nous nous mettons à la disposition de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Amen, amen. Hein. C'est quelqu'un qui disait, un très bon conseil, à mesure que Dieu ajoute des années à votre vie, demandez-lui d'ajouter de la vie à vos années. Amen. Hein. Et donc tout ça pour dire que, eh bien, jusqu'où va notre texte, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça signifie tant et tant de bonnes choses. Amen. Mais nous passons à notre deuxième grand point. Donc, deux généreuses paroles venant d'un bon maître. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Qui a entendu parler de telles conditions d'un maître ou d'un patron d'habitude, hein? D'habitude, c'est le maître qui est au salon et c'est le serviteur qui est à la cuisine. C'est le patron qui est dans le bureau directorial et c'est le serviteur, l'ouvrier qui est à l'atelier. C'est le maître qui s'asseye à table, donc, avec ses amis, et le serviteur se ceint pour faire le service. Mais quelle générosité de la part du Seigneur qui dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur ». Utilisant toujours le presbytre Yohanan et son diacre Isaac comme modèle, vous vous souviendrez que là où le presbytre était, là, Isaac était à son côté, et quand bien des nuits, bien, il devait dormir sous l'ombre épaisse d'un arbre, là où Yohanan était, là, le diacre était aussi. Hein. Était-il accueilli par des amis généreux? Mais ils partageaient là encore la même couche, hein. Et à certains moments, s'ils étaient assis près d'un foyer bienfaisant, bien, ils étaient assis là ensemble. Plus tard, ils tremblèrent dans le froid de l'hiver, mais ils tremblèrent côte à côte. Et leur lot, durant tout ce voyage, a été le même, et quand ils sont arrivés, ils se sont assis à la même table. Voilà. Et combien nous voyons que c'est la règle que Christ a accomplie tout au long de sa vie aussi. Rappelez-vous, depuis le début, depuis le mariage de noces de Cana, il est venu avec ses disciples, nous est-il dit. Et ensuite, nous voyons, par exemple, du fait que Jésus se réjouisse de ce que Dieu se révèle aux enfants, à ceux qui sont à la mamelle, les disciples se réjouissent en même temps, nous a-t-il expliqué, que Satan tombe du ciel comme un éclair, voilà, Jésus venait souvent dans la maison de Lazare, mais les disciples étaient avec lui toujours, hein, nous voyons cela aussi, et quand il a été accueilli, quand il a été acclamé à Jérusalem, il n'a pas dit à ses disciples de s'éloigner, mais il a partagé donc cela avec ses disciples. Et puis est venu le moment du dernier repas. Là aussi, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous, dit-il. Rappelons-nous, c'était cela. Remarquez qu'ayant partagé ses joies et ses avantages avec eux, il a voulu aussi partager ses combats et ses difficultés avec eux. Ça aussi, c'est une réalité. Dans le bateau avec la tempête, ben, il faut que ses disciples soient avec lui, même s'ils sont terrorisés, parce qu'ils ont des choses importantes à apprendre là. Hein? Donc, à Gethsémané, il faut que ses disciples soient là, même, nous voyons, s'ils s'endorment alors que Jésus est en train de prier. Il a été seul dans la mort, bien sûr, hein? Ça c'est la réalité, hein? Seul dans sa mort, mais malgré tout, ses disciples ont été avec lui ensuite, puisque eux aussi, ils sont morts dans des persécutions, dans des accusations, avec une fin qui était semblable à la sienne. Et ainsi donc, il faut qu'il en soit ainsi pour nous. Si nous marchons dans cette voie, eh bien, c'est aussi dans sa gloire que nous serons avec lui, alléluia, puisque c'est là qu'il est, c'est là qu'il veut aussi élever ses serviteurs. Celui qui vaincra sera assis, celui qui vaincra donc sera assis avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Voilà ce que proclame Jésus. Et combien nous pouvons donc, à ce moment-là, aimer les conditions de notre Maître, qui est un bon Maître, vraiment méritant d'être suivi et d'être aimé. Et avant de passer au point suivant, pour illustrer cela, pour peut-être nous le faire encore mieux saisir, je voudrais vous donner un témoignage qui s'est passé du temps des premiers méthodistes. Donc c'était au XVIIIe siècle, et donc après le décès de John Wesley, le mouvement méthodiste a pris une grande ampleur, s'est beaucoup développé, et puis ils avaient un système de circuit, c'est-à-dire qu'il y avait des prédicateurs qui étaient envoyés, qui allaient d'une assemblée à une autre, comme cela, ils étaient logés sur place à l'époque, et là il y avait en particulier un prédicateur qui était remarquable, qui avait commencé son ministère très jeune, pendant tout un temps, il n'était pas très connu non plus, il était itinérant donc, et il n'avait pas beaucoup d'apparence. Hein, puis ça fait que il souffrait un peu de son humble origine. Et puis voilà donc, il a été envoyé suivant le plan du circuit dans une certaine ville, dans une certaine maison aussi, un samedi soir pour y être logé, y être accueilli. C'est la première fois qu'il venait dans ce lieu-là. Et la maîtresse de maison, quand elle l'a vu, elle a méprisé son apparence et elle l'a envoyé à la cuisine. Et puis là, il y avait un serviteur qui faisait toutes sortes de travaux grossiers, sales, et qui a été surpris de trouver le prédicateur à la cuisine quand il est rentré du travail. Mais bon, bien qu'il soit un petit peu rude de manière, malgré tout, il a souhaité la bienvenue au prédicateur méprisé, et il a essayé de réjouir son cœur, et le serviteur de Dieu a partagé donc le grossier repas de John, et puis il a partagé aussi le lit de John dans la remise, et puis l'humble déjeuner de John, et il est allé donc à la maison de Dieu avec John au matin. Et puis voilà que, comme ce prédicateur était quand même quelqu'un de remarquable, en tout cas bien qu'inconnu à ce moment-là, bien, il n'a pas plutôt ouvert la bouche depuis longtemps que l'assemblée s'en est aperçue. Hein, et qu'à ce moment-là, la bonne hôtesse qu'il avait si mal accueillie, elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Là, hein. Donc là, et quand le message a été achevé, le culte aussi, alors il y a eu plusieurs invitations pour le prédicateur. Et l'hôtesse, craignant de perdre un hôte qu'elle voulait maintenant honorer, donc, l'a supplié de revenir à la maison avec elle. Mais à sa surprise, il lui a répondu la chose suivante. « J'ai soupé avec John, j'ai dormi avec John, j'ai pris mon déjeuner avec John, j'ai marché jusqu'ici avec John, je repartirai d'ici avec John. » Voilà. Et quand vint le dîner, bien sûr, il fut invité à venir dans la salle à manger où différents amis voulaient s'entretenir avec un homme qu'ils estimaient maintenant, hein, qu'ils admiraient. Mais non. Lui, il voulait dîner dans la cuisine. Il avait soupé avec John, il avait pris le déjeuner avec John, et il dînerait avec John. Alors, ils l'ont supplié de venir au salon, et finalement, il a accepté, à condition que John soit assis à la même table. Voilà. Et John a été assis avec moi dans mon humiliation, et je ne m'assierai pas pour dîner s'il n'est pas avec moi dans mon exaltation. Voilà. Et il a persévéré dans cette façon de faire jusqu'au lundi matin. J'ai mangé avec John, j'ai dormi avec John, j'ai déjeuné avec John, je suis allé avec John, je suis revenu avec John, j'ai dîné avec John, car John a été avec moi dès le commencement et il le restera jusqu'à la fin. Amen. Hein? Voilà. Et comme le Seigneur Jésus veut agir de même envers nous, si de moins, nous demeurons avec lui en tout temps, dans la facilité comme dans la difficulté, dans l'honneur comme dans le mépris. Amen. Amen. Et ceci nous amène à notre troisième point. au troisième point, qui nous parle d'une glorieuse récompense pour un service bien imparfait. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Comment le Père va-t-il nous honorer ? Eh bien, si nous suivons Christ, si nous servons Christ, non pas suivant l'opinion de notre entourage, non pas forcément suivant l'opinion de notre famille, non pas suivant ce que disent les hommes ou les coutumes, les intérêts du moment, mais que nous suivions Jésus selon sa parole, que nous suivions véritablement Jésus suivant son enseignement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors Dieu va nous donner un profond repos, une profonde paix. Et ça, c'est quelque chose de précieux entre tout. Savez-vous que l'Écriture nous parle d'un triple repos pour le croyant, pour le fidèle ? Déjà, le repos de l'âme, en premier. Jésus a dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous trouverons le repos. Regardez, regardez ces Français, rouspéteurs, contestataires, hein, comme on les voit partout là, comme on les entend partout en ce moment. Et voici donc, et sur les réseaux sociaux, et les manifestations et tout. C'est quoi le problème ? Est-ce que la France est un mauvais pays ? Est-ce que la France est un pays qui est pas beau ? Est-ce que France est un pays où on n'a pas assez à manger ? Est-ce que la France, dites-moi, la France c'est le pays, avec l'Italie, où il y a le plus de touristes au monde qui viennent. Donc c'est qu'il ne doit pas être si moche que ça. Mais le problème, il est où ? Il est à l'intérieur, le problème. C'est ça, le problème. Vous savez, ça, c'est la réalité, c'est ça. Hein. Donc, on peut chercher dans mille endroits. Hein. On peut chercher dans des associations, dans des religions, dans toutes sortes d'exercices spirituels, physiques ou choses. On ne trouvera pas ce repos. Il y aura toujours une part d'incertitude. C'est Augustin, en son temps, donc, qui lui aussi a cherché pendant de longues années au mauvais endroit. À chercher, donc à calmer sa soif de salut, il a écrit cette célèbre phrase « Seigneur, tu nous as créés pour que nous te trouvions, et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le repos en toi. Amen. » Donc ça, c'est ce premier repos que le Seigneur veut donner pour ceux qui se confient en lui. Ensuite, vous avez le repos de nos œuvres. Ça aussi, c'est quelque chose. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, nous parle de cela. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Oui, c'est vrai. C'est un repos. Le repos de lorsqu'on lui confie toutes choses et on s'attend à ce qu'il nous soutienne et à ce qu'il nous secoure, et il le fait. Alléluia. À ce moment-là, nous travaillons avec lui. À ce moment-là, eh bien, il travaille avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons lui confier toutes choses. On raconte le sujet d'Hudson Taylor, donc le grand missionnaire de la Chine, qui n'a pu entrer dans ce repos de la foi que 20 ans après sa conversion. Voilà. Et jusqu'à ce moment-là, il luttait uniquement par ses propres forces pour rester en communion permanente avec Dieu. Et c'est une lettre reçue d'un ami qui lui a fait comprendre que la foi ne signifiait pas seulement les efforts du croyant, même si bien sûr il y a la part, mais le repos de celui-ci dans la fidélité de Dieu. Voilà, il a saisi ça. Et alors il a écrit, c'est en lisant que je vis et que je compris tout. Je regardais à Jésus et compris. Et en comprenant, je sentis la joie inonder mon cœur, compris qu'il a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». C'est cela le repos, me dis-je. J'ai lutté en vain pour trouver le repos en lui. Je ne veux plus lutter. N'a-t-il pas promis de demeurer en moi et de ne jamais me quitter ? Et c'est à partir de ce moment-là, donc, que Hudson Taylor est devenu totalement cet homme dont avait besoin cette grande œuvre de la mission en Chine. Voilà. Ça, c'est le repos des œuvres. Et puis, vous avez enfin le repos éternel au moment de l'enlèvement, dont nous parle l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 et 7. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Donc la Bible nous déclare que nous entrerons dans le repos au moment où Jésus reviendra pour la résurrection des morts et pour l'enlèvement. Ce repos, eh bien, c'est ce repos pleinement entier que le Seigneur veut donner, dans la victoire, dans la pleine délivrance. On est délivré de toutes les souffrances, délivré de toutes les détresses. Tout est arrivé à son terme, la vie est parvenue à sa parfaite plénitude, le but suprême de la foi est atteint. Amen. Ce qui a commencé à la conversion débouche à ce moment-là sur l'éternité. Amen. Voilà, nous allons parler un petit peu de Dieu qui va l'honorer. Donc, hein, si quelqu'un me suit, le Père l'honorera. Déjà, ça va se manifester comme cela. Et puis, Dieu l'honorera aussi en faisant prospérer ce qu'il entreprend pour lui. Vous savez, il est important de suivre Jésus dans les petites choses. Les petites choses qu'il nous demande. Parce que ces petites choses n'ont de petites que l'apparence. Vous savez, Dieu nous met à l'épreuve pour voir ce qu'on va faire. Avant de nous confier les grandes choses, il dit, bon, je vais mettre des petites choses sur son chemin. Je vais voir comment il réagit, comment elle réagit. Je vais voir s'il a à cœur d'obéir vraiment, de chercher, ou s'il fait les choses seulement de manière superficielle, négligente. Hein. Le Seigneur voit les choses. Pour lui, les petites choses, ça sert à ça. Hein. Dans l'Écriture, vous avez des commandements qui sont là, qui peuvent paraître, oui, pour certains, ils disent, oh, mais ça c'est accessoire. Eh bien, tu sais, rien qu'en disant ça, en disant que c'est accessoire, ben, toc, Dieu le voit, et Dieu voit comment tu réagis. Parce que si tu as à cœur, si moi aussi nous avons à cœur d'obéir à toute la parole, à ce moment-là, le Seigneur nous suivra, et le Seigneur nous accompagnera. Et le Seigneur mettra sa main sur nous, et lorsque nous faisons ce que notre main trouve à faire, à ce moment-là, le Seigneur agira et bénira l'œuvre de nos mains. Amen. Et puis ceux qui servent Christ en le suivant auront un immense honneur à la fin. Et là, je voudrais vous parler d'une anecdote qui s'est produite il y a bien longtemps aussi, mais ça concerne un prince qui était en voyage et dont le bateau a fait naufrage et a été jeté à la côte avec un seul compagnon. Et le prince est tombé entre les mains des barbaresques et il y avait une possibilité pour son compagnon d'échapper, mais il a dit « Non, mon prince, je resterai avec vous jusqu'à la fin et si vous devez mourir, eh bien, nous mourrons ensemble. » Et le prince a été jeté dans un cachot, et son compagnon a été en prison avec lui, il l'a servi, il a veillé sur lui. Le prince a été malade, c'était une fièvre contagieuse. Ce compagnon l'a soigné avec la tendresse, les soins d'une mère. Et ils ont été dans une profonde pauvreté, ils ont partagé leur dernier crouton de pain à un moment. Ils ont été enchaînés en marchant dans les rues, et ils ont été enchaînés ensemble. Enfin, on a découvert où était le prince, il a été délivré. Et il était ramené chez lui. Quel est l'homme que le roi et la reine vont choisir d'honorer, hein, dans cette situation? Vous imaginez la chose. Faites place à cet homme. Il était avec mon fils en prison. Il était avec mon fils quand il était près de la mort. Il l'a soigné. Il a souffert avec lui. Il a porté le fardeau. Il a porté l'opprobre avec lui. Et j'imagine qu'ils ont considéré cet homme avec plus d'affection, avec plus de joie que de grands hommes d'État qu'ils ont pu rencontrer par ailleurs. Hein, nous pouvons comprendre cela. Ils n'oublieront jamais cet homme. Ils n'ont jamais oublié cet homme aussi longtemps qu'ils ont vécu. Ça, c'est la réalité. Et maintenant donc, frères et sœurs, si vous et moi, nous sommes avec Christ, le Fils du Roi, si nous souffrons avec lui, si nous supportons le reproche avec lui, si nous le suivons toujours et partout, si nous ne choisissons pas le chemin, facile ou difficile, verdoyant ou boueux, mais que nous avons à cœur de suivre Christ, quoi qu'il en soit, si nous pouvons aller avec lui à la prison et à la mort, si de tels temps viennent, oui, alors nous serons de ces femmes, de ces hommes que le Seigneur se plaira à honorer. Alléluia. Le temps viendra, il dira « faites place ». Pour lui, les anges, faites place pour elle, faites place, vous, chérubins et séraphins, reculez, père du royaume des cieux, voici l'homme, voici la femme. Ils étaient pauvres, ils étaient affligés, mais ils ont été avec mon fils, ils ont été comme mon fils. Approche-toi, voici ta couronne, assieds-toi avec mon fils dans la gloire, car tu as été avec mon fils dans la honte. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, te bénissons, combien tu es digne d'être suivi. Les gens sur la terre, ils suivent. Ils vont suivre une idole, ils vont suivre une vedette de la chanson, ils vont suivre je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, ils vont suivre un mouvement, ils vont suivre une idée, ils vont suivre une philosophie, ils vont suivre une religion, ils vont suivre tout ça. Mais seulement ceux qui suivent Jésus-Christ seront sauvés, et seulement ceux qui suivent Jésus-Christ seront pleinement et glorieusement récompensés. Et merci, Seigneur, de pouvoir te suivre. Et merci parce que tu es celui qui véritablement nous soutient, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous garde. Tu accomplis encore ton œuvre bénéfique en faveur de chacune et de chacun, tout spécialement de ceux qui ont à cœur d'être tes disciples et véritablement tes disciples. Merci notre Sauveur et notre Dieu pour toute bonne œuvre que tu veux encore faire pour cela. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et puis nous avons quelques annonces. Je vous rappelle, donc la réunion de prière, c'est mercredi à 20h15 ici. On va encore attendre pour la reprise de l'école du mercredi parce que c'est un petit peu la confusion là un peu partout hein, pour les enfants, mais on ne perd pas de vue notre projet qu'on a là. Question-réponse biblique, ça a repris le vendredi à 19h15. La réunion d'évangélisation, vendredi à 20h15 aussi. Et l'évangélisation dans les villages, samedi, rendez-vous ici à 14h30 pour y participer. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie en lui. Alléluia. Merci Seigneur.